Une création Magellan.
Il se définit comme animateur de radio et de télévision plutôt que comme journaliste. Il a des airs de dandy, il écoute vraiment ses invités et ses débats donnent voix aux plus grands intellectuels, d'habitude absents des médias. Avec lui, on va voir en quoi consiste l'art de faire accoucher les esprits. Bonjour Frédéric Taddeï.
Bonjour.
Séquence 1. La figure de style. Anaphore, métaphore, jeu de mots, j'analyse une figure de style souvent utilisée par l'invité pour voir quel effet ça produit dans son discours. La figure de style qui me semble être parlante à votre égard, c'est la litote qui exprime un double aspect de votre personnalité, de mon point de vue, à la fois une forme de bienveillance et de distance ironique avec la chose que vous désignez, en apparence seulement. Donc je prends l'exemple d'une phrase que vous répétez très souvent à vos invités, c'est « vous exagérez ».
Vous ne pouvez pas reprendre votre invité, ce que je peux faire sur à peu près tous les autres sujets, en lui disant « non, là, vous exagérez » ou « ce que vous dites là, attention, vous êtes le seul à le dire », par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça, ce sont des notions importantes pour maîtriser une discussion.
Là, c'était dans un entretien avec Frédéric Worms sur France Culture, et vous le présentiez comme une façon de cadrer le débat, mais ça peut aussi signifier beaucoup d'autres choses, une façon de relativiser ce que dit l'interlocuteur, de lui signifier poliment qu'il a tort et qu'il est seul à dire ceci ou cela, une manière peut-être de l'inviter à poursuivre, à développer sa pensée, et peut-être une manière d'avoir le temps de réagir et de préparer votre réplique quand vous êtes pris au dépourvu.
Il y a un peu de tout cela, mais je dirais plus simplement, c'est quand quelqu'un dit quelque chose qui est susceptible... Vous savez ce que la plupart des gens appellent un dérapage? J'ai horreur de ce mot, je le trouve ridicule. Les gens ne dérapent pas, ils disent ce qu'ils pensent. Mais parfois, ce qu'ils pensent peut choquer, ou parfois pourrait tomber sous le coup de la loi. Et dans ce cas-là, il faut le demander à la personne qui vient de dire cela de le préciser. Alors et dans ce cas-là, vous pouvez le mettre poliment en demeure de s'expliquer. Moi, mon but, quand j'invite quelqu'un, ça n'est pas de le combattre. C'est de comprendre et de faire comprendre ce qu'il nous dit exactement. Que je sois d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui n'a strictement aucune importance. Donc après, vous avez plein de manières comme ça qui vont venir à brûle-pourpoint pour permettre à l'autre d'être clair. Vous exagérez, c'est pour qu'il...
Ça veut dire plus, parfois.
Non, ça veut dire c'est une figure de style. Ce que vous nous dites là, c'est une posture, peut-être. Alors dites-le. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ou c'est une façon de parler? C'est quand vous lui dites... voilà, vous allez, de manière différente, vous allez lui demander d'être clair et qu'il ne puisse plus y avoir de malentendus avec les gens qui nous écoutent. Très souvent, ce qu'on appelle, entre guillemets, un dérapage, c'est un malentendu que l'animateur laisse s'installer entre son invité et le public. Et je dis souvent, c'est généralement parce que l'animateur n'écoute pas ce que dit son invité. Donc, l'invité peut dire une énormité, un truc raciste ou qui pourrait sembler raciste. Et puis, l'animateur ne s'en rend pas compte. Il est en train de lire ses fiches. Donc, il le saura le lendemain. Maintenant, c'est un peu plus rapide parce qu'on n'attend pas les journaux du lendemain. C'est immédiatement sur Twitter. Et là, il se dit « Ah, merde, j'ai... »
Parfois, il a une oreillette.
Voilà. Mais même ceux qui sont dans la régie ne sont pas forcément plus attentifs.
Séquence 2. Les techniques de l'invité. Mon invité vous fait partager ses trucs, ses habitudes, ses techniques en dévoilant son rapport à l'éloquence, bref, les clés de sa prise de parole. On va voir comment vous en êtes venu à faire de la parole votre métier, puisque vous n'étiez a priori pas destiné à ça. Une enfance heureuse, entre 20 et 30 ans, ce que j'appellerais du tourisme universitaire. En tout cas, vous vous inscrivez en première ou deuxième année de plusieurs matières, du droit, de l'histoire, de la sémiologie. Dans une interview, vous dites « J'ai su ne rien faire pendant 10 ans, tout en étant très occupé ». Un paradoxe intéressant. En 90, vous créez le magazine Maintenant, qui me semble rappeler le titre actuel de Jean-François Bizot, qui d'ailleurs, lui, vous recrute pour Actuel. Et vous commencez une chronique la même année sur la radio qui dirige, Nova, intitulée « Aujourd'hui, j'ai lu pour vous ». Ça doit être le début de votre chronique à la radio. En 94, vous devenez chroniqueur pour l'émission Nulle part ailleurs, dans la bande de Jérôme Bonaldi, jusqu'en 98, donc sur Canal+. Vous êtes passé de la presse écrite à la chronique, qui est un genre d'art oratoire. Et c'était facile pour vous, parce qu'au début, je vous ai entendu dire, j'ai pas retrouvé les extraits, mais que vous vous sentiez pas fait pour parler, il vous arrive parfois de vous tromper.
Non, ce qu'il y a, c'est que la radio me semblait, quand j'étais enfant, je me souviens, Europe 1, c'était la station de radio branchée des cadres supérieurs, que mes parents écoutaient. Pour moi, les gens qui faisaient de la radio étaient des gens... C'était pas du tout un métier souhaitable. Pour ce qui me concernait, je me voyais pas du tout animateur de radio. Mais c'était un métier, il me semblait, les gens avaient des voix très très belles. D'abord, il y avait ce qu'on appelait des voix de radio.
Le timbre ?
Le timbre était magnifique. Pierre Bellemare, Jacques Chancel, attention, c'était des timbres, quoi. C'était très beau à entendre. Et puis surtout, ils avaient une élocution parfaite. Et moi, j'ai jamais eu une élocution parfaite. Je trouve que je bredouille, je trouve que je mange certains mots. Quand je m'entends, c'est un cauchemar.
En plus, vous êtes très souvent en direct, donc on ne peut pas revenir là-dessus.
Tout le temps. Et oui, quasiment tout le temps. Et donc, je me suis dit, c'est un métier totalement qui n'est pas du tout fait pour moi. En plus, pour moi, c'était un métier qui manquait de panache. J'avais tort. Hein. Je me disais, qu'est-ce qui peut arriver de mieux à un animateur de radio ? C'est d'être Gérard Cyr et qu'on entende ta voix dans un film de Claude Lelouch. Parce que dans tous les films de Claude Lelouch, dès qu'on allumait la radio, on entendait Gérard Cyr, qui avait lui aussi une voix magnifique, d'ailleurs, une diction parfaite. Et voilà, mais ça ne me semblait pas du tout un métier enviable.
Avec Ce soir ou jamais, que vous présentez entre 2006 et 2016 sur France Télévisions, vous dites avoir voulu renouveler l'émission culturelle à la télévision. Et effectivement, vous l'avez fait, de même d'ailleurs que Paris Dernière était novateur. Vous permettez notamment à vos interlocuteurs de finir leurs phrases, ce qui n'est pas évident à la télé. Mais il y a aussi eu Hier, Aujourd'hui, Demain, sur le même modèle, un peu différent, une émission mensuelle où vous analysiez l'actualité à travers des regards d'artistes qui avaient publié un essai, par exemple. Et Aujourd'hui, Interdit d'interdire. Mais avant ça, avant ce renouvellement de l'émission culturelle, il y a eu Dardar qui vous a aussi fait connaître du grand public et qui est diffusé depuis 2002 sur France 2, consacré chaque fois à une œuvre de l'histoire de l'art et présenté depuis 2018 par Adèle Van Riet. Ça me fait penser ce type de pastille, de petite chronique, à Un livre un jour d'Olivier Barrault, qui est plutôt dans le style un peu désuet, loin de la spontanéité et de la vivacité des débats que vous avez animés ensuite.
En préface au tome 4, Pierre Nora, le maître d'œuvre de l'ensemble de 7 volumes publiés par Gallimard sous le titre « Lieu de mémoire », décrit son entreprise comme un monument cathédralesque et labyrinthique. On ne saurait mieux dire d'un ouvrage au fond sans précédent qui se propose tout simplement d'écrire autrement l'histoire de France.
J'exagère beaucoup, hein. Et là, c'est vous qui présentez la Joconde dans Dardar.
Imaginez qu'un matin, en vous réveillant, vous appreniez que la Joconde a disparu. Eh bien, c'est ce qui est arrivé le 22 août 1911. Ce jour-là, au musée du Louvre, à la place du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, il ne reste que le cadre. Quelqu'un a découpé la plus célèbre peinture du monde, l'a glissée sous son manteau, et on l'apprendra plus tard, a tranquillement pris l'autobus.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un tout petit peu figé dans ces plats ?
Alors, il se trouve que là, ce n'est pas le bon exemple que vous avez pris pour Dardar, parce que c'est un exemple où je raconte une anecdote historique. Dans Dardar, vous devez, en 1 minute 15 exactement, raconter une œuvre d'art. C'est beaucoup plus difficile. Là, c'est une anecdote. Ce que fait Barrault, ce qu'il essaye de faire quand il lui présente un livre. Mais on ne perd pas du tout de la même manière. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dardar a été un énorme succès.
Mais un livre à jour aussi, non ? C'était un énorme succès.
Pas de la même manière, si vous voulez. Ça dure depuis très longtemps. C'est très bien, hein, je ne discute pas. Mais il n'y a pas la volonté d'être compris immédiatement par le grand public. Son œuvre cathédralesque, etc., etc. Il y a trop de subordonnés chez Barrault, que j'aime beaucoup. Hein, mais moi, j'ai étudié... Moi, je parle d'une œuvre d'art, ça n'intéresse a priori personne, et vous êtes le dimanche soir, là où il y a le plus d'audience, et vous arrivez, vous avez 1 minute 15, et là, je pourrais vous faire une théorie de 300 pages sur comment vous captez l'attention de quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la peinture. Déjà, il faut une très bonne accroche, vous voyez, par exemple, là, imaginez qu'un jour, on vous dise que la... un matin, vous réveillez, on vous dit que la Joconde a disparu. Vous voyez, là, vous tendez l'oreille. Parce que maintenant, on l'a beaucoup raconté, cette anecdote, mais au moment où je la raconte, personne ne se souvenait que la Joconde avait été volée.
Parlez à l'auditeur.
Vous devez avoir une très bonne accroche. Vous devez ensuite avoir quelques rebondissements. Il y en avait dans l'histoire de la Joconde volée. Et puis, il faut une très bonne chute. Mais surtout, il y a une règle. Vous ne devez jamais perdre l'attention de quelqu'un qui ne peut pas remonter de deux lignes comme on le fait dans un livre quand tout à coup quelque chose vous a échappé. S'il ne comprend pas une phrase, vous êtes perdu. Donc vous devez faire un très grand effort de clarification, de synthèse, de résumé, mais ça ne veut pas dire non plus de vulgariser. C'est un mot que je n'aime pas. Ça, c'est rendre vulgaire, vous voyez. Non, vous devez être clair, vous ne devez pas être vulgaire. Vous ne devez pas être racoleur.
Vous jouez voilà. Sur les mots.
Et vous ne devez pas non plus être pontifiant. Vous ne devez pas être grandiloquent. Vous ne devez pas être pédant. Parce que sinon, ça n'a aucun sens.
Et avec ces questions, ce faisant, on se rend compte que vous, qui n'êtes pas un intellectuel, mais qui intellectualiser, dont le processus consiste à intellectualiser pour comprendre le monde, ça vous intéresse de savoir comment vos invités voient le... C'est interpréter le monde contemporain, en fait, un des enjeux
principaux. Au départ, dans cette question, moi, en fait, toutes mes émissions n'ont qu'un but, comprendre mon époque. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Que je le fasse dans Paris Dernière, en allant dans les boîtes échangistes, en interviewant des premiers ministres, en dansant dans les boîtes de nuit, je veux comprendre mon époque. Et je veux, par la même occasion, donner à ceux qui me regardent la possibilité de la comprendre. Et de l'interpréter à leur manière, d'ailleurs. Parce que je laisse assez libre les gens. Je ne suis pas directif vis-à-vis des téléspectateurs et des auditeurs non plus. Paris Dernière, Ce soir ou jamais, tout ça, c'est une manière interdite d'interdire aujourd'hui. C'est une manière de comprendre l'époque. Dans le cas de la question rituelle que je posais pendant Europe 1 Social Club, c'était lié simplement à ce qu'il y avait une séquence au début où je voulais que tous mes invités parlent ensemble, puisqu'ensuite j'allais les interviewer un par un. Chacun
c'est à ça que ça
réagir.
Sert, en fait.
C'était uniquement pour ça. C'est que j'avais une séquence de libre. Soit je mettais un invité de plus et ils étaient trop nombreux, à mes yeux, même pour les gens qui écoutaient. Donc j'avais une première séquence entre deux pubs et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Là, il faut qu'on entende tout le monde parce que le dernier que je vais interviewer, on l'entend pas avant 50 minutes et parfois même une heure et demie parce que mon émission durait deux heures et donc je me suis dit il faut qu'on les entende
tous. Ça, c'est un point très intéressant, c'est comment rythmer l'émission de telle sorte qu'on se lasse pas, que ça fasse des rappels.
Et de façon à ce que le dernier invité qui parlera dans l'émission puisse parler dès le début. Voilà.
Tout simplement.
Ouais.
Il y a une question qui est importante. Comment préparer un débat, puisque c'est ce que vous faites, et vous avez très souvent répondu à cette question, notamment à Philippe Bilger dans une vidéo là, sur YouTube, où vous dites, je cite, « réunir sur tous les sujets les opinions, les visions du monde les plus différentes ». Et c'est, le but, c'est de sortir des débats tout faits entre progressistes et réactionnaires qui, selon vous, confortent les spectateurs dans leurs idées. Et c'est en fait une notion de dialectique. Cette émission s'intéresse à l'art oratoire, à la rhétorique, et avec vous, on est peut-être plus dans la dialectique sur le fait d'apporter la contradiction. Et je vous pose cette question, est-ce que la vérité résulte de la confrontation des idées les plus antagonistes ?
Non, je pense que la vérité est inaccessible. La vérité scientifique, évidemment, elle est accessible, mais la vérité sur un événement, sur une période historique, n'est que le fruit d'un long travail, d'une longue réflexion, et c'est même parfois infini, interminable. On peut encore discuter aujourd'hui de la bataille de Bouvines. Vous voyez, les historiens peuvent. Donc, quand vous préparez un débat, vous n'avez pas l'ambition qu'à la fin, la vérité va éclater. Ce serait naïf et un peu bête, à vrai dire. C'est plutôt que les gens ne soient pas forcément confortés dans leurs opinions, parce que ça, c'est trop facile. C'est de les faire réfléchir et surtout qu'en voyant pourquoi et là où les gens ne sont pas d'accord, qu'ils comprennent où est le problème. Très souvent, les gens et moi-même, j'en fais partie, et tout le monde, on ne voit pas où est le problème. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un problème.
C'est ça la grande question.
Oui, on voit bien qu'il y a un événement qu'on n'arrive pas à accepter, et on a l'impression qu'on n'avait jamais vu ça, par exemple, alors que très souvent, on l'a déjà vu, mais sous des formes différentes.
Insistez souvent sur le fait que tout a déjà eu lieu.
C'est très important.
Non, mais souvent, il y a des choses qu'on croit nouvelles, et puis si on se penche sur le passé...
La plupart du temps, c'est ça, mais tout n'a pas déjà eu lieu. Moi, je crois qu'il faut, pour comprendre son époque, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est, on va dire, c'est regarder le passé. Et puis, il faut regarder le présent, c'est-à-dire ce qui se passe au même moment dans les autres pays. Là, vous pouvez commencer à comprendre votre époque. L'époque en France, aujourd'hui, 2020, c'est la seule manière de comparer avec le passé et comparer avec le présent ailleurs.
Et vous, dont on dit que vous avez interviewé la Terre entière, parmi tous les invités que vous avez reçus, avocats, hommes politiques ou comédiens, quels sont, selon vous, les plus éloquents ?
Ce n'est pas une question de profession. Et encore une fois, il faut faire la différence entre celui qui est très éloquent, ce qu'on appelle en radio et à la télévision un bon client. Les journalistes, les animateurs aiment beaucoup les bons clients, ouais. Vous voyez, parce qu'ils font le show, on leur pose une question ouverte. Pourquoi vous avez fait ce film ? Et il démarre 10 minutes.
Benoît Poulevard, par exemple.
Oui, Benoît, il est très, très, très intelligent. Donc, c'est quand même toujours
formidable.
Mais
c'est risqué.
Voilà. Mais vous avez des intellectuels qui ont une pensée très pauvre, mais qui sont très éloquents. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au début de cet entretien, qu'il faut clarifier la pensée de l'autre. Quand vous l'invitez, moi, je peux faire une heure avec quelqu'un sur un livre. Si le livre me paraît suffisamment important, je vais passer une heure avec quelqu'un pour qu'il raconte son livre. Ça peut faire même l'économie de la lecture du livre. Vous voyez, je ne l'invite pas pour le combattre, même si par moment, je vais pouvoir lui poser des questions en disant, en mettant en doute ou soit la réalité de son propos, soit la noblesse des sentiments qui l'animent quand il écrit une chose pareille, etc. etc. Mais l'important, c'est d'abord que l'on comprenne.
Et vous, on pourrait dire que votre rôle noble, puisque vous avez utilisé ce mot, consiste à rendre intelligible des gens qui peut-être, a priori, ne seraient pas éloquents par vos questions.
Absolument, et de les rendre intelligibles, de clarifier leurs propos, de montrer aussi ce qu'ils peuvent avoir de choquant, de scandaleux, de tout ce que vous voulez, mais que ce soit clair, qu'on se trompe, qu'il n'y ait pas de malentendu.
Vous ne dévoilez pas vos opinions, alors ça, je vais aller très vite là-dessus, puisque en fait, vous dites que c'est les journalistes qui vous posent cette question, mais en fait, tout le monde le fait. À Frédéric Worms, vous dites « J'ai tout fait pour ne plus avoir aucune opinion », elle est géniale cette phrase. À Philippe Bilger, vous dites « Être dans une neutralité curieuse et intéressante », et sur France Inter, vous parlez de « neutralité bienveillante ou ironique », c'est ça que je retiens. Et pour qu'on cesse de vous poser des questions, vous répondez que vous êtes un gauchiste de droite, et là, on vous écoute sur France Inter.
Non. Je dis ça quand les gens veulent absolument savoir quelles sont mes opinions. Ça les inquiète. C'est drôle, c'est les journalistes toujours. Les journalistes, j'ai l'impression que les journalistes, le fait d'avoir des opinions et de les afficher, ça prouve que, je sais pas ce que ça prouve d'ailleurs à leurs yeux, mais que ça inquiète quand vous préférez les taire, parce que ça me semble la moindre des choses vis-à-vis à la fois des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs, mais aussi par rapport à vos invités, que vos invités sachent pas pour qui vous votez, si vous votez. Je trouve ça plus juste, voilà, de cette neutralité bienveillante ou ironique, mais neutralité, j'insiste.
Cette émission de Laurence Garcia sur France Inter, où vous étiez confronté à Éric Dupond-Moretti,
Je n'étais pas confronté, on est très amis, oui. Il le savait en nous invitant.
Parce que vous dites souvent avoir un côté avocat refoulé, en plus d'avoir un côté écrivain raté. Et d'ailleurs, vous faites très souvent allusion au droit, le fait que vous tenez à ce que les propos de vos interlocuteurs ne tombent pas sous le coup de la loi. Et on écoute sur le rapport avec l'avocat Éric Dupond-Moretti cet autre extrait de l'émission.
Et je suis un avocat refoulé.
J'avais caressé à un moment l'idée de devenir avocat. Peut-être que je suis devenu un avocat, d'ailleurs, d'une certaine manière. Donc, il y a quelques avocats comme ça qui m'ont tout de suite fasciné. Il y a Thierry Lévy, dont Eric était très ami aussi. Il y a Roland Dumas, d'une autre manière, mais pour moi, c'est plus un politique qu'un avocat. Mais il est souvent venu dans Ce soir ou jamais. Puis, il y a Eric Dupond-Moretti. Et très souvent, quand j'avais des espèces de fulgurances d'avocat refoulé, j'appelais Eric Dupond-Moretti pour lui demander si je rêvais complètement ou si ce que je disais était pas bête. Et puis tout de suite, il rebondissait et très vite, généralement, le soir même, il était Ce soir ou jamais.
Et juste avant de vous faire réagir, je cite une de vos phrases dans un entretien avec Paul Jorion, que vous avez souvent invité dans vos émissions, où vous dites que vous auriez sans doute été un avocat du genre de Dupond-Moretti et qu'il y a en vous un instinct, je cite, de prendre la défense des gens en tant qu'être humain.
Oui, il y a quelque chose... Je vois assez bien quand un raisonnement se tient ou ne se tient pas. Mais je vois assez bien et assez vite quand dans un raisonnement, quelque chose, j'anticipe, si vous voulez, ce à quoi ça nous amène, un peu comme quand on joue sur des poulies, vous voyez, et de voir là où ça marche pas, quoi. Et je pense que j'aurais adoré, j'aurais pris beaucoup de plaisir dans un procès pénal à démonter le dossier de l'accusation.
Par exemple, à plaider aussi.
Alors c'est autre chose. C'est plutôt ce qui, vous voyez.
Parce que vous prenez la parole, vous êtes un orateur d'un autre genre.
Je ne me sens pas du tout un orateur, pas du tout.
Mais vous l'êtes.
Peut-être par la force des choses, mais je ne me sens pas du tout. Je ne peux pas rivaliser avec ceux que je considère moi comme des orateurs. Je peux peut-être rivaliser sur d'autres plans.
Et le côté imperfection de la parole vous convient aussi.
Il se trouve que je suis bien obligé de faire avec, mais j'aurais préféré sans doute avoir ne jamais mettre de « e » entre deux mots, de ne jamais bredouiller, de ne jamais écorcher un mot, de ne pas faire de faute de français, ça m'arrive, moins qu'à mes collègues, mais ça m'arrive, et je m'en veux à mort.
Vous avez un côté puriste
oui,
à cet égard.
Et puis, non, mais vous pouvez pas savoir, par exemple, je peux plus supporter d'écouter la radio parce que tout le monde dit « bonjour à tous
ouais. ».«
Bonjour à tous ».« Bonjour machine ».« Ah, bonjour monsieur ».« Bonjour à tous ». Ça me rend fou. Ça me rend fou. D'abord parce que tout le monde dit la même chose, mais deuxièmement parce que je déteste ces trois mots à coller. Je trouve que ça hurle tellement c'est laid. Bonjour à tous.
Vous le voyez aussi dans les mails, ou alors bonjour
partout,
machin.
C'est devenu une espèce de
bonjour monsieur.
Il y a un grand phénomène de mimétisme, y compris vocal, chez les journalistes, chez les hommes politiques, chez tout le monde. Dès l'instant où une expression comme ça fait florès, moi je n'ai qu'une envie, c'est d'en trouver une autre. Et c'est difficile de trouver autre chose que bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Bonjour.
C'est pas mal. C'est comme ça.
Mais généralement, j'évite le bonjour et je dis bienvenue.
Est-ce que je peux vous poser une question qui consiste à analyser le retour actuel de l'art oratoire ? Depuis une dizaine d'années, on a vu... Alors, vous êtes l'héritier de la disputatio, cet art antique de l'affrontement sur des idées antagonistes, qui est devenu, pour la plupart des gens, le modèle de l'art oratoire. La conférence Berryer, la conférence du stage des avocats, qui est devenu le modèle de tous les concours d'éloquence, partout, en banlieue, en France, etc. Donc, on constate qu'il y a un retour de l'art oratoire depuis une dizaine d'années. Comment est-ce que vous l'analysez ?
D'abord, je ne l'ai pas constaté. Pour moi, l'éloquence, la vraie, elle date. Il y a de moins en moins de gens dont je dirais que l'art oratoire est particulièrement impressionnant. Il suffit d'ailleurs de lire les comptes rendus des débats de l'Assemblée nationale dans les années 30.
Je vous parle de l'enseignement de l'art oratoire qui a disparu des écoles en 1902, alors qu'au 19e siècle, il y avait une classe de
voilà,
rhétorique.
Et on le sent dans le résultat, quand vous lisez les débats de l'Assemblée nationale dans les années 30, les types sont à un niveau extraordinaire. Aujourd'hui, c'est très très bas, alors à l'Assemblée particulièrement, mais même... Moi, je n'ai jamais été bluffé, à part par quelques personnalités extraordinaires. Stéphane Hessel, je me souviens, l'auteur d'Indignez-vous, qu'on a beaucoup vu dans Ce soir ou jamais. D'ailleurs, c'est là qu'il est devenu célèbre, parce que personne ne l'avait jamais vu ailleurs. Et qui avait, alors lui, une éloquence extraordinaire à l'ancienne, avec des phrases très très longues, beaucoup de subordonnées, qui se rétablissaient à la fin d'une manière extraordinaire. Edgar Morin a ça aussi, et il l'a encore. D'ailleurs, je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, il a 98 ans. À chaque fois, je me disais, mais où il va, le pauvre ? Il est en train de perdre la boule, il va pas se...
Et
À la fin, c'était, il se posait, mais comme j'avais l'impression qu'un avion d'acrobatie se posait à la fin comme une fleur sur la piste d'atterrissage, c'était formidable. Voilà,
ça, là, c'est la syntaxe, c'est les grandes périodes, oui, c'est côté Chateaubriand.
C'est une pensée claire, très claire. La pensée claire, la clarté de la pensée, c'est ce qu'il y a de... Moi, ce qui m'impressionne le plus...
Que traduit la syntaxe.
Plus que l'éloquence, c'est la pensée que j'aime, moi. Et de voir quelqu'un qui est capable de penser... d'une façon différente, parce que si vous pensez comme tout le monde, vous ne pensez pas. Donc, penser d'une façon différente, emporter l'adhésion ou pas, mais faire comprendre par les circonvolutions de sa pensée d'où on part, par où on passe et là où on arrive, ça me bluffe. Et surtout quand on est original et percutant, on va dire.
Mais est-ce que vous pensez qu'il faut enseigner de façon pratique ou théorique l'art oratoire ?
Oui, mais si c'est pour cacher le fait qu'on pense comme tout le monde, vous voyez, ce que vous avez comme ça, je ne dirais pas de nom, mais vous avez des invités qu'on voit dans plein d'émissions, qui viennent faire des grandes déclarations, des acteurs, des chanteurs, mais comme ils sont éloquents, on les prend au sérieux. Et on a l'impression que cette pensée tout à fait commune, sans intérêt, parfois même... un peu fétide, tout à coup, parce qu'il y a, des petits ornements jolis, et puis un acteur ou un chanteur qu'on aime bien qui est en train de vous dire ça, tout à coup, ça fait bien.
Il ne faut pas dissocier l'éloquence et l'art oratoire de la pensée.
De la pensée. Pour moi, c'est la pensée qui est le plus important, et y compris si quelqu'un ne s'exprime pas tellement bien, si sa pensée est percutante, ben, je préfère. Alors, est-ce qu'il faut enseigner l'art oratoire ? Je pense que plus on a de vocabulaire, plus on est capable de penser. Bon. Je pense qu'on pense mieux avec 3000 mots qu'avec 300 mots. Mais même là, je peux me tromper. Peut-être, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus.
Chez Cicéron, il y a trois buts, enfin, ou traditionnellement dans la rhétorique antique, au discours, c'est enseigner, plaire et émouvoir. Les trois sont importants pour vous ?
Sans doute. Moi, je rajouterais surprendre. Parce que, encore une fois, moi, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'être épaté. Par une œuvre d'art, par une pensée, par une personne que je rencontre, j'ai envie d'être surpris. Et donc,
tout le monde n'a pas envie d'être surpris, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent être confortés en fait, dans leurs propres
opinions. C'est le problème. Moi, je ne suis pas fini. Voyez, c'est pour ça aussi que j'ai pu me débarrasser de mes opinions. C'est pas se débarrasser de ses opinions, ça n'est pas se débarrasser de ses convictions. Ça n'est pas la même chose. Les opinions, on en change, voyez, puis c'est ce qu'on sort quand il arrive quelque chose. Alors on sort son opinion, mais ça n'a aucun intérêt les opinions. Les convictions, c'est plus important. Et ça j'en ai toujours.
Séquence 3. L'atelier oratoire. Et maintenant, on entre à proprement parler dans l'atelier oratoire. Je soumets à mon invité des techniques qui dévoilent ce potentiel rhétorique qu'on porte tous en nous. Est-ce que vous pourriez me dire quel est votre principal tic de langage ? Je vous en donne quelques-uns qui sont courants chez les gens.
Non, mais il y a je le dis souvent. Alors, je le dis souvent. Finalement, je le dis bien trop souvent. Je pense que, là encore, on passe tellement de temps à écouter, à entendre les autres, et notamment quand on fait ce métier, qu'on est forcément influencé. Finalement, se répand un peu comme l'ennemi invisible s'est répandu. Vous voyez, Emmanuel Macron a été le premier, je crois, en tant que président de la République, à parler de guerre contre l'ennemi invisible, en parlant du coronavirus. Et puis ça s'est répandu comme un virus. Vous voyez, très souvent, les mots eux-mêmes deviennent des virus qui se propagent à toute vitesse.
Image intéressante. Est-ce que vous avez un dicton ou un proverbe préféré qui vous guide ?
C'est une phrase de Charlie Chaplin, je crois, mais j'en suis pas sûr. La vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur.
Analysons-le maintenant. Alors, le dire à tout le monde, ça.
Oui, je le dis d'ailleurs quand on me demande, mais après,
ça, c'est vous qui l'avez inventé, celui-là ?
Non, c'est Charlie Chaplin.
D'accord.
Je crois, en tout cas. Mais je ne saurais même pas vous dire où. C'est pour vous dire que je n'en suis pas si sûr. Peut-être que j'attribue à Charlie Chaplin un truc.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Je me suis dit un jour. C'est de se dire que vous avez le choix. Vous avez le choix d'avoir peur. Vous avez le choix d'avoir peur du coronavirus. Vous avez le choix d'avoir peur du terrorisme. Vous avez le choix. Moi, j'ai décidé que je n'aurais peur ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai peur de rien. Si, j'aurais peur si un type vient vers moi avec un couteau. J'aurais peur, physiquement, comme tout le monde. Mais j'ai décidé de ne pas avoir peur intellectuellement de quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai peur qu'il y ait une guerre civile en France, par exemple. Mais je me raisonne. Je me dis non. Faut pas en avoir... Arrête d'avoir peur. Ouais. Si, je pense que la peur est très mauvaise gouvernante. Moi, je pense que la vie est formidable, que les gens sont beaucoup mieux qu'on me dit, par exemple. Je fais plutôt crédit aux gens jusqu'à ce qu'ils me déçoivent, qu'ils me mentent, qu'ils se révèlent être des salopards. Mais au départ, je n'ai pas d'a priori négatif sur les gens. Voilà, donc je pense que la vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. J'ai pas, voilà, si vous avez peur de tout, ou peur de certaines personnes, ou de certaines catégories sociales, religieuses, ethniques, la vie vous semble beaucoup moins belle, c'est sûr.
J'ai deux petits exercices à vous soumettre. Le premier, c'est de trouver une métaphore immédiatement, comme ça, sur le modèle du vers de Paul Éluard, qui est assez célèbre. La terre est bleue comme une orange. Je vous demande, comme ça, de but en blanc, je vous dis, la terre est trois petits points. La terre est quoi ?
Est grande. Et pour moi, c'est plus important. Parler de mon fils, à qui j'ai toujours dit, la vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur, mais je lui ai dit aussi, le monde est grand et la terre est grande.
Est-ce que vous pourriez compléter la terre est grande comme...
La Terre est assez grande pour que si ça tourne mal ici, on puisse aller ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai emmené en voyage avec moi très jeune. Je dis toujours qu'à 5 ans, il avait fait les 5 continents, pour qu'il sache que la Terre est grande. Et que si ce pays devient étouffant, si ce pays tourne mal, si ce pays n'est plus ce pourquoi on l'a tous aimé, ben, il ne faut pas avoir peur de partir. Voilà. Parce qu'ailleurs, ça peut être beaucoup mieux. Toute la Terre n'est pas en crise, toute la Terre n'est pas, ne devient pas hystérique, toute la Terre n'est pas terrorisée, toute la Terre...
Un autre exercice, dites-moi si vous êtes partant, j'ai inventé un truc qui s'appelle le haïku blason. Le haïku, donc vous voyez ce que c'est une forme courte japonaise en un souffle, comme ça, de 5, 7 et 5 syllabes, qui est plutôt dédiée aux saisons. Et le blason, bah, c'est le blason de l'épopée orale, c'est le blason de votre famille, c'est votre blase, quoi, votre étendard. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose avec Frédéric Taddeï en 5-7-5 ?
J'en doute. J'ai pas du tout ce culte du moi, ce culte de la personnalité. J'ai jamais fait d'anagramme sur mon nom. Ah j'ai jamais été regardé qu'est-ce que ça signifie, Frédéric, par exemple. Je m'en fous complètement. J'ai pas fait de numérologie sur mon nom, ni sur ma date de naissance. Je sais à peine si je sais de quel signe du zodiaque je suis. Je crois que je connais même pas mes ascendants. Vous voyez, j'ai pas du tout ça. Ça me... Alors après, je pourrais, quand c'est nécessaire, s'il faut se définir, je peux vous trouver des définitions, comme je dis dans l'entretien que vous diffusiez tout à l'heure, quand les gens me demandent ce que je suis politiquement, je finis par leur répondre que je suis un gauchiste de droite. Voilà, c'est une façon de se définir tout en ne disant rien, tout en laissant les gens perplexes.
Vous n'allez pas être assigné ou déterminé.
Oui, il y a un petit côté ça. Vous ne voulez jamais être... vous ne voulez jamais rentrer dans une case. Mais pas seulement ça. Je me souviens quand j'étais adolescent, et le père d'un de mes amis m'avait surnommé Dandilettante.
Ah, c'est pas mal.
Je trouvais ça assez joli. Voilà, je me disais que oui, ça m'allait. Mais voilà, mais ça ne me résume pas. Je trouve ça très joli. Mais évidemment, c'est incomplet. Quand je prépare une interview, je ne suis pas du tout dilettante, par exemple, vous voyez. Alors que je peux l'être assez dans ma vie.
Hein. Nous allons donc conclure cet entretien qui était extrêmement plaisant. J'ai vos citations, donc malgré vous, je vais vous citer.
Citez-moi.
Je ne pourrais pas vous défendre de ça. Dans un entretien sur la chaîne YouTube, justement, qui s'appelle « Hier, aujourd'hui, demain », donc j'imagine que c'était celle de l'émission, vous confiez ceci comme un conseil, puisque ici, on aime bien, on n'en a pas donné beaucoup, mais on aime bien donner des conseils. Vous ne savez pas fatalement pourquoi vous êtes le plus doué, mais c'est ce qu'il faut faire.
Oui, je crois beaucoup au fait que si vous voulez, par exemple, vous rêvez d'être acteur, vous voyez, c'est ça, ça vous botte, etc. Mais si vous n'êtes pas un très, très bon acteur, je pense que vous serez malheureux toute votre vie, même si vous avez du succès. Il y a beaucoup de mauvais acteurs qui ont du succès.
Ils sont malheureux.
Ils se le cachent. Oui, parce qu'ils le savent. Ils savent qu'ils ne sont pas Gérard Depardieu. vous voyez. Ils le savent. Ils le savent. Donc, ils sont malheureux. Et les chanteurs, c'est pareil. Vous savez, il y a des chanteurs, ils vont voir les Rolling Stones, ils vont voir... ils ont adoré Brel quand ils étaient enfants. Et puis, ils sont ce qu'ils sont. Et ils sont malheureux. Même s'ils vendent des millions de disques, ils savent qu'ils sont ni Brel, ni les Rolling Stones. C'est horrible. Et donc, je pense qu'il faut, il vaut mieux être un boulanger qui est vraiment un très bon boulanger. On a plus de chances d'être heureux en étant un très bon boulanger qu'en étant un chanteur qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il avait rêvé ou un acteur qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions ou un animateur.
J'ai noté deux, trois choses qui pourraient nous servir de conseils conclusifs quoi, pour les auditeurs. La première, c'est que la vie est belle pour ceux qui n'en ont pas peur. L'autre, c'est quand vous... Pour vous, votre méthode, c'est de vous fixer des contraintes et de vous y tenir. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait conseiller.
Mmh. Oui, puis c'est, mais c'est plus un. Je vous dis, c'est plus une manière de faire un journal. Quand j'ai créé maintenant mon premier journal, je l'ai fait comme ça. Il y avait un dogme. Il fallait respecter le dogme. Et à la télévision, c'est pareil. À la radio aussi.
Maintenant, ça simplifie la vie aussi de...
Pas forcément, mais oui, d'une certaine manière.
On n'a pas à réfléchir à chaque fois à un
nouveau cadre.
Que,
voilà, mais on va jusqu'au bout de ce que ça permet, voyez. Mais il faut pas des cadres non plus trop restrictifs. C'est pas ce que je me fixe. Mais ça peut être aussi une paresse. C'est-à-dire qu'au fond, je veux réfléchir au contenu de l'émission et pas à la forme. Vous savez, je me méfie beaucoup. Enfin, dans ma génération, il y avait beaucoup de garçons, parce qu'il y avait moins de filles que ça intéressait, beaucoup de garçons qui voulaient créer des groupes de rock. Ce qui les intéressait, c'était de trouver le nom du groupe et comment on allait s'habiller. Mais enfin, rarement, je les voyais composer des chansons.
Puis en plus, ils faisaient que soit en anglais, soit traduire de l'anglais.
Voilà, donc voilà, j'ai l'impression que quand on change trop, on est obsédé par la forme de son émission, on est moins obsédé par son contenu et par le travail qu'il faut fournir chaque jour pour interviewer le mieux possible, organiser les meilleurs débats possibles. Voilà, je préfère me concentrer là-dessus que de me concentrer sur ce qui me semble moins important. Mais j'admire beaucoup ceux qui sont capables de faire les deux et de se renouveler.
Mais pour
aussi
ce qui vous
sur
concerne, pour ce qui vous concerne, vous dites aussi l'important, c'est de savoir où est le problème.
Ça, c'est pour les débats. L'important, c'est de comprendre où est le problème. C'est pas tellement de savoir si vous êtes pour ou contre. C'est de comprendre où est le problème, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas d'accord, sur quoi exactement. Voilà.
Et enfin, la toute dernière question, que peut-être j'aurais dû poser avant, c'est quoi une bonne question ?
C'est une question dont vous n'avez pas la réponse et que l'on n'avait jamais posée à celui à qui vous la posez. Moi, je ne pose jamais... à mes invités de questions, à part qu'est-ce qu'on a fait de nouveau depuis le début des années 2000, que je posais rituellement au début d'Europe 1 Social Club, donc quand même pendant 5 ou 6 ans. Mais sinon, quand j'interviewe deux personnes, il n'y a pas une seule question qui pourrait leur être commune. Quand je vous interviewe, jamais je ne vous pose une question qui ne vienne pas de ce que je sais ou de ce que je crois comprendre de vous. Et j'essaye au maximum, c'est pas toujours possible, mais au maximum de poser des questions dont je ne connais pas réellement la réponse. Voyez, je peux avoir une vague idée parce que j'ai lu votre livre, j'ai vu vos films, donc je me doute que vous allez me répondre ça, mais je suis pas sûr. Et puis parfois, je vous pose cette question-là justement pour vous faire comprendre que peut-être que vous vous mentez à vous-même depuis le temps que vous dites que vous êtes écologiste alors que vous ne l'êtes pas, ou vous dites que vous êtes un type généreux et que vous êtes radin, vous voyez, des choses comme ça.
Merci beaucoup Frédéric Taddeï.
Je vous en prie.
Et si on reconsidérait l'art oratoire en privilégiant le fond à la forme ? Frédéric Taddeï est un passeur plutôt qu'un bretteur, plus familier de la dialectique que de la rhétorique, plus attaché à la construction de la pensée qu'à l'éloquence. Son but n'est pas de combattre ses invités, c'est de comprendre et de faire comprendre ce qu'ils nous disent exactement.